fait. Bonjour à toutes et à tous et bien, on revient dans notre étude du livre de Shemot et donc nous sommes au chapitre 3, versets 10-11. Nous sommes à l'époque du buisson, le buisson ardent, bien sûr. Donc on avait expliqué que la problématique de Moshe, c'est pourquoi ce buisson qui brûle ne se consume-t-il pas ? Et on avait expliqué qu'il comprend que le buisson, c'est le peuple juif, et que le feu, c'est les problèmes qui arrivent sur le peuple juif. Il dit les problèmes sont là, ils sont toujours là, ils n'arrêtent pas, mais normalement, ça devrait détruire le peuple d'Israël. Comment ça se fait que ce buisson ne brûle pas ?
Au contraire, il le réchauffe.
Il le réchauffe, et il est toujours là. Et c'est vrai, c'est une question, bah voilà, c'est la question éternelle. Hein. Comment ça se fait qu'on est toujours là ? Bah, oui, heureusement, bien sûr,
mais
je veux dire...
c'est vraiment une question.
C'est, en vrai, quand tu regardes...
Le goy, il se demande...
Mais hein. Ça n'arrive nulle part ailleurs, ce n'est arrivé nulle part ailleurs. Qu'un peuple qui a été tellement persécuté et emmené en exil continue à résister, réussit même à revenir sur la terre de ses ancêtres, à se reconstruire, c'est pas possible.
Aurait-il résisté s'il n'y avait pas eu de malheur ?
Ah, ça c'est une bonne question aussi. Est-ce qu'on aurait réussi à être toujours le peuple juif si on nous avait ouvert les portes ? Hein, c'est une vraie question. Peut-être que c'est justement le feu qui maintient le buisson. C'est une version extrêmement pessimiste de la vie juive.
Oui. Hein? Oui, j'aime pas la version.
T'aimes pas la version, hein? Non, de dire qu'il faut les épreuves pour qu'on puisse être toujours là. Quoi? Pas de dire qu'on résiste aux épreuves, de dire qu'on a besoin des épreuves pour être encore là. Si l'égoïme nous avait fait pucci-mucci, on se serait assimilé.
Ça, c'est sûr.
Sans être
enceinte. Ça, c'est sûr que.
Des cacahuètes de Ranana.
Et elles ont un goût différent des cacahuètes de Jérusalem.
C'est ce que j'allais demander. Ouais. Pourquoi elles ne sont pas des lattes ?
Parce qu'on n'était pas.
Ah, bah voilà. Maintenant, je comprends pas. Si. Enfin, je veux dire, on connaît un peu l'histoire du peuple juif. L'histoire du peuple juif, oui. Une des choses qui a gardé le peuple juif, c'est qu'on n'avait pas le choix, puisque les goïms, ils ne nous permettaient pas de nous assimiler à eux. Tu ne pouvais pas habiter avec eux, tu ne pouvais pas te marier avec eux, tu ne pouvais pas travailler avec eux. Donc à un moment donné, c'est plus facile, on va dire, de ne pas s'assimiler quand on ne te laisse pas t'assimiler. On a vu ce qui s'est passé depuis les 200 dernières années, depuis qu'on a donné la citoyenneté et l'émancipation aux juifs d'Europe. Eh ben, on voit bien ce qui s'est passé au niveau de l'assimilation. Donc, quelque part.
Et les Américains.
Ben, c'est pareil.
Et en France.
Non, en France, aux États-Unis, c'est pareil. C'est-à-dire, là où les Juifs, on leur a dit, vous êtes comme tout le monde, ben, ils ont commencé à devenir comme tout le monde. C'est-à-dire, n'oubliez pas que, qu'est-ce qui a gardé les Juifs en Égypte? Ça, on l'a déjà dit. Mais qu'est-ce qui a gardé les Juifs? Qu'est-ce qui a fait qu'au bout de 210 ans, ils sont toujours Juifs? Ils sont pas devenus Égyptiens. Alors oui, mais l'esclavage, elle a commencé très tard.
Oui.
Donc c'est pas quand on est tout de suite devenu esclave. Au contraire, au début, on était bien avec Yosef, ses frères, tout allait bien. Et pendant 130 ans, il n'y avait pas de problème en Égypte. Mais nous disons ça, ce qui a gardé le peuple juif, c'est qu'on a gardé trois choses. Notre langue, nos noms et nos vêtements. Oui. C'est-à-dire que malgré l'Égypte, on a quand même mis le Shtreimel, on s'est quand même appelé Goldberg et on a quand même parlé Yiddish.
On n'est pas l'application,
nous. Hein? Ben c'est ça le problème. C'est que, alors, il y en a qui disent, ouais, mais ils ont gardé que ça. Tout le reste, c'était des Égyptiens. C'était des diamantaires à Anvers, truands comme les autres, mais ils étaient habillés avec les paillesses. C'est, ou d'un autre côté, tu dis, d'accord, mais enfin, c'est quand même vrai que ça, ça protège. Quand tu as une langue, bien sûr qu'à Anvers, tu parles aussi allemand et tu parles aussi, ben, pas de problème.
Flamand.
Flamand. Khalila. Mais, oui, ben, j'ai bien compris. Si les gens personnes nous écoutent, Rav de Shalom. Mais alors, Daron, tu parles aussi, mais tu parles aussi yiddish. Donc, t'as quand même la séparation avec le guy. Et d'un autre côté, je continue à m'habiller en juif. Ça met une distance. Et mon nom, il est imprononçable pour quelqu'un qui ne prononce pas les shel, les chel. Alors, il y a une distance. Et c'est vrai qu'à partir du moment où les gens ont commencé à franciser leur nom, on dit à leurs enfants, nous, on ne parle plus en yiddish ici, on parle en français.
Mais ils ont quand même gardé la Brit Mila.
Alors, bien fait. Donc tu dis, il y a des trucs qu'on a quand même gardés.
Oui, mais tout ça, ça
ne
suffit pas.
Ça pourquoi suffit faire, pour faire revenir une deuxième ou une troisième génération.
Oui,
ça suffit.
Oui, bien sûr.
C'est superficiel.
Bien sûr.
C'est pas profond.
Ah oui, mais c'est évident,
non,
c'est évident.
Pas profond, mais ça suffit. Qu'il y ait un truc, ça suffit pour faire revenir le.
C'est comme on disait, ceux qui mangent des petits fiches aux États-Unis.
Évidemment.
Bessèder va savoir ce que vont devenir les enfants, ou rien du tout, ou quelque chose.
C'est sûr que c'est pas suffisant. Mais on va dire que celui qui a pas ça non plus.
Il te fiche qu'il est resté quelque chose, tu comprends.
C'est comme dans cet album de Lucky Luke, En Terre Promise. Vous avez forcément lu l'album de Lucky Luke, La Terre Promise. Oui. Lorsque Lucky doit accompagner une famille de juifs de Pologne. Jusqu'à je sais pas où,
l'autre côté
de l'Amérique. Oui. Je ne sais pas un peu plus exactement où. Maintenant, au début de l'histoire, celui qui doit les accompagner, c'est Jack Lapoisse. Et Jack Lapoisse.
Mais c'est Goldberg.
Lucky Luke lui demande, mais attends, mais quel. Parce qu'il dit, je dois accompagner mes cousins. Mais... Il dit, mais quel rapport entre toi, Jack Lapoisse, et une famille juive de Pologne? Il dit, non, mais moi je m'appelle Yankel Stern. Mais j'ai changé mon nom quand je suis arrivé en Amérique. Ça a l'air. On en connaît, je veux dire, on en connaît tous, hein, des gens comme ça qui ont changé leur nom, francisé, on arrête de parler d'ich, on parle français, et on s'habille à la française. Bien sûr qu'on connaît ça. C'est la porte, évidemment, à l'assimilation.
En sortant du train, et c'était juste au début de la guerre, mon oncle a dit à sa sœur, qui parlait yiddish, qui parlait que ça, chut, zisou, bedarf nicht reden yiddish. Il ne savait pas parler autre chose, ni lui, ni elle.
Il fallait
elle.
Se taire.
Mais il fallait parler bas.
C'est comme tu vois, dans le film, enfin le film, c'est une histoire vraie, quoi. Le film Le Voyage de Fanny.
Oui.
Le film ouais, très beau
en
film.
En plus, Fanny, elle est venue, hein, Sylvain. Elle est venue à une des trucs d'Aloumim, à une assemblée générale, et elle a parlé de ce film.
Et ben voilà.
Hein, Sylvain, tu te souviens?
Ouais.
Bah, Fanny... Enfin, dans le film, tu vois qu'il y a une des filles qui est dans le groupe, qui parle que le yiddish, donc elle lui dit de se taire, elle ne peut pas parler, elle ne peut pas parler, il ne faut pas que tu parles. Bon, alors ça, on connaît cette histoire. Donc, est-ce que c'est les persécutions ou la mise à l'écart qui nous a maintenus? Je ne sais pas, je ne refais pas l'histoire. Le fait est que bah, ça nous a maintenus. En malazot. Ok, donc là, Moshe, il ne comprend pas, et Dieu lui dit, voilà, je vais sortir... mon peuple qui est en Égypte. Et on a toujours posé la question, mais attendez, est-ce qu'on ne sait pas, parce qu'il dit Rao Raiti et Oni Ami Ashab Mitzrayim, est-ce qu'on ne sait pas que son peuple, c'est celui qui est en Égypte? Eh bien, si, on le sait, mais Moshe, lui, il avait un peu oublié. Puisque Moshe, ça faisait quand même 40 ans qu'il avait renié le peuple juif et qu'il était en train de créer son nouveau peuple à Midian. Ok? Donc, allons-y. Chapitre donc verset 11. Vayomer Moshe el Elohim. Mi anochi ki elech el Paro vechi otzi et bnei Israël mitzrayim. Alors qu'est-ce qu'on a expliqué depuis le début de notre étude? Que Moshe, il a un problème de schizophrénie. Il a un problème de docteur Moshe et Mister Rabbeinu. C'est-à-dire que est-ce qu'il est égyptien Moshe ou est-ce qu'il est Rabbeinu juif? C'est un vrai problème, c'est une dialectique très forte chez lui. Et notre Moshe national, il pose la question. Il dit, « Mi anochi ki elech et paro ?» Parce que pour aller voir Pharaon, c'est pour quoi faire? C'est pour lui dire de laisser partir les Bnei Israël d'Égypte. Donc je dois être moi-même juif, hébreu, venir au nom des Bnei Israël. Mais d'un autre côté, tu me demandes de guider les Bnei Israël. Pour guider les Bnei Israël, il faut que je sois égyptien. C'est-à-dire, il faut que je sois quelqu'un qui sache guider un peuple.
Un chef.
Un chef. Et où est-ce que j'ai appris à être un chef? Chez les Égyptiens. Donc, « Mi anochi ?»
C'est marrant ce mot anochi qu'on retrouve. Parce que c'est un mot en général,
c'est fort.
Dire qui, oui.
C'est très fort, mais il ne sait pas qui il est.
Quand on lui demande, quand on demande à je ne sais plus à qui où tu es, je suis là, anochi.
Et Dieu, quand il va se dévoiler au Mont Sinaï, il dira anochi Hashem Elohecha.
C'est là combien de fois?
C'est-à-dire, donc, je ne sais plus combien, mais en tout cas, tu as raison. Ça prouve un vrai questionnement profond. Mi anochi. Kelech el paro, vechi otzi et bnei Israël mitzrayim, vayomer ki eye imach. Vezelech haot, ki anochi shelachticha beotziacha et ha'am mitzrayim, ta'avdun et ha'elohim al ha'ar azeh. Ma zeh? Eye imach? Mais c'est quoi cette histoire? Je serai avec toi. Dit Rashi, eshivo lo al rishon, rishon, ve'al acharon acharon. שאמרת מי אנוכי כי אלך אל פרעה, לא שלך היא, כי היא משלי, כי היא עמך, זה המראה אשר ראיתי בסנה, לך עוד כי אנוכי שלחתיך. סדיר, תנקט פש ותדה השק אתאפ. פס הפרעון, ג'י אין פלן. פס אובני ישראל, ג'י אין פלן. Et pour que tout le monde soit bien conscient que c'est moi qui t'ai envoyé, il y a un troisième plan. Donc je vais, tu vas gérer. Je vais t'aider. Tu n'es pas tout seul dans l'histoire. C'est-à-dire, on a, je ne sais pas si vous avez entendu les messages, séquences comme ça, là maintenant, de la guerre, où il y a l'officier de liaison de Khel Haavir qui parle avec un des officiers au sol. Sur les combats, il dit vous avez besoin de quelque chose, vous avez besoin de quelque chose. Et il dit non, on a, tout va bien, mais on vous sent vraiment derrière nous et on sent que vous nous protégez.
On gère,
mais on est content que vous soyez là.
Ils lui disent aussi quoi faire.
Ouais.
C'est extraordinaire.
Donc voilà, c'est.
C'est nouveau.
Ah. Oui, c'est très nouveau. C'est
on fait
très nouveau.
La guerre avec des chevaux et des sables.
Oui, on fait plus la guerre avec des chevaux et des sables. Enfin, moi, j'ai été à la guerre il y a pas si longtemps que ça. C'était à peine 10 ans. Il n'y avait pas une telle relation entre l'armée de l'air et nous, au sol.
Le journalisme militaire,
c'est
tout à fait différent.
Ouais, je ne parle pas de journalisme, je parle du terrain. Nous, on n'avait pas de contact avec l'armée de l'air.
Non, mais quand c'est... tu dis c'est différent, déjà les tankistes qui te disent qu'il faut être très fort en informatique pour conduire un tank.
Non, moi, j'ai adoré l'image du tank où il y avait marqué au dos la Akradash. Je trouvais ça génial.
Ça, c'est notre humour.
Écoute, il y a dans un des je sais pas, tank, non, pas tank, c'était un missile, donc je sais pas, à Totranim, où semble-t-il, il y avait un Français dans l'histoire, et semble-t-il, il venait de Marseille. Puisqu'il dit... Je sais maintenant pourquoi je déteste le PSG sur le missile, parce qu'ils sont financés par le Qatar comme le Hamas. Allez l'OM, tout ça sur le missile. Donc, bon, écoute.
Il y a des trucs qui se passent.
Non, écoute. Hein. Ok. Donc le projet, c'est de vous sortir d'Égypte. Vetaavdun et Elohim al haharze. Mazetaavdun et Elohim al haharze. Vous servirez Dieu sur cette montagne. C'est quelle montagne? On est sur le mont Sinaï. Mais on ne sait pas encore ce qui va se passer. On a dit, on ne sait pas vraiment où c'est. Est-ce que c'est Sainte-Catherine? Est-ce que c'est plus du côté de l'Arabie Saoudite? C'est pas très clair, cette histoire.
Un jour, on saura.
Quoi ou pas? En vrai, le Sinaï, aujourd'hui, pour nous, ne représente rien. C'est à la différence du mont du Temple, qui, même lorsqu'il n'a pas le Beth Amikdash, garde sa sainteté, le mont Sinaï n'a plus aucune sainteté. Donc, pour nous, c'est... Oui, tout à fait, mais d'après la loi juive, n'importe qui peut se balader sur le mont Sinaï aujourd'hui. Sans, il n'y a pas de loi particulière. C'est-à-dire que c'est pas plus kadosh que ton appart. C'est-à-dire, alors que le mont du temple, c'est le mont du temple. Ok? Vamar Moshe el Elohim. Ine anochi ba el bene Israël. Vamarti lahem Elohe avotechem shlachani alechem. Si je viens voir les bene Israël et je leur dis, le Dieu de vos pères m'a envoyé. Va'omru li mashmo ma omar alehem. Donc là, ça veut dire que d'abord, Moshe, il connaît très bien le peuple juif. Il sait très bien ce qui intéresse vraiment à Israël, c'est le nom. C'est le nom. C'est-à-dire désigner les choses. C'est-à-dire savoir de quoi on parle. À Israël, il a toujours eu cette importance de savoir nommer les choses. Parce que le nom, c'est l'objectif. Quand tu dis « je fais ça au nom de », c'est dans quel but? Donc donner un nom à quelqu'un, c'est pas n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'on fait toute une histoire du nom qu'on va donner aux enfants.
C'est marrant parce que tu dis, parce que revenant à l'armée, il disait, le journaliste là que j'ai écouté, sur, je crois que c'est sur la 14, il disait, les gars, ils y vont au nom des bébés qui ont été tués avec.
Mais Mamashkar.
Chacun, ils ont un... C'est le nom des gosses.
Mais tu vas voir que enfin c'est toi qui vas voir, il y aura plein de naissances là qui vont arriver au lendemain de la guerre.
Ouais.
Oui, bon d'accord. Mais vous avez.
Oui,
avant. Ça va.
Il va avoir plein de
copains. Voilà, il y aura des ou alors il y aura des bébés qui sont au nom des enfants qui seront pas revenus.
Mais ça je peux pas le voir, je
connais
pas les noms.
Oui, d'accord, mais enfin bon. Donc voilà, on en est là vraiment. C'est quoi le nom? C'est quoi le nom? Mashmo ma omar alehem. Le nom c'est Khashou. Vayomer Elohim el Moshe Eye Asher Eye. Voilà mon nom. Ehye asher ehye. Je serai celui que je serai. Mazé. D'autant plus qu'il va changer dans deux secondes. Regarde, Vayomer, Kotomar livne Israël, Ehye shlachani alechem. C'est-à-dire, il n'a pas dit Ehye asher ehye. Il a dit à Moshe, mon nom c'est Ehye asher ehye, mais quand tu vas leur parler, tu leur diras juste Ehye. Pourquoi ? Je veux dire, Rashi, qu'est-ce que ça veut dire Ehye asher ehye ? Je serai celui que je serai. Ça veut dire. Alors voilà, nous dit Rashi, Lefi ma'asai ani nikra, ça c'est Ehye, mais asher ehye, c'est tout le temps. C'est-à-dire, je serai avec eux, je suis avec eux dans cet exil, comme je serai avec eux dans les prochains exils. Et ça, Moshe lui a dit, alors le Midrash, c'est pas marqué dans la Torah, mais le Midrash nous dit que Moshe, il a dit, ah, je peux pas leur dire ça. Je peux pas leur dire maintenant qu'ils sont au fin fond de l'exil qu'il y aura un autre exil après. C'est pas possible. Ils vont pas le supporter. C'est peut-être que c'est vrai. Peut-être moi je peux l'entendre, mais eux ils peuvent pas l'entendre. Donc il a dit t'as raison. C'est pour ça qu'à eux tu leur dis pas. À eux tu leur dis juste les filles ma'asai aninikra.
C'est
à eux tu leur dis je me dévoile différemment en fonction des circonstances. Ne leur dis pas tout de suite qu'il y aura un autre exil et encore un autre exil. C'est pas la peine. S'il avait dû lui expliquer qu'est-ce qu'il y aurait à Gaza en 2023, je ne sais pas si... Voilà, c'est compliqué. C'est très compliqué cette histoire, très très compliqué. J'entendais un parchan, pas en Israël, un anglais d'Afka, un commentateur sur... un journaliste comme ça, qui disait, bon, c'est très grave ce qui se passe en Israël, ce qui s'est passé, évidemment, très très très, très grave, mais... Les Israéliens, je ne sais pas, il disait comme ça, je ne sais pas si plus tard, après la guerre, le jour du 7 octobre sera vraiment un jour important pour eux. Parce que finalement, au regard de l'histoire juive, 1400 morts, c'est pas grand chose au regard de l'histoire juive. Il y a eu des drames beaucoup plus grands dans l'histoire juive.
C'est pas seulement le nombre de morts.
Mais bien sûr, bien sûr.
C'est pas le nombre de morts.
C'est évident.
Mais la façon, c'est là que ça se soit passé comme une chose.
Oui, mais bien sûr. Mais je suis d'accord avec toi. C'est octobre. Octobre.
Non. Pourquoi ? Ils ont décidé de faire un jour. T'as pas vu ça ?
Non, j'ai pas vu.
De faire un jour officiel au jour de Yartsa, enfin de l'Askara, qui n'est pas le 7 octobre, qui était le 7 octobre.
Mais ils l'ont mis au 7
octobre. L'Askara de qui ? De qui ? De quoi ?
Ils l'ont mis au 7 octobre. Ils ont fait la goye.
Pour le monde entier.
Mais tant mort, c'était le 7 octobre, ce qui s'est passé.
Et ben,
hier, hier ils ont demandé à l'homme d'allumer une bougie parce que c'était les Shloshim.
Attendez, tant mort.
C'était les Shloshim.
J'ai pas du tout. J'ai raté ça.
Oui.
J'ai zappé. Qu'est-ce qui... Hier, on devait faire un jour de.
Avant-hier.
Le 6.
Hier, avant-hier.
Le 6 novembre, c'était les Shloshim.
Oui.
Ok. Donc, ils auraient pu mettre le 6 novembre. Date
de commémoration
de ça. Mais
okay.
Ils ont mis au 7 novembre parce que ça faisait exactement un mois par rapport au monde entier.
D'accord.
Ils ont affaire des choses.
J'entends.
Et hier, c'était un jour de deuil.
D'accord.
Et qu'à 11h, on s'est à l'hôpital, on s'est arrêté pendant une minute. Et puis il y a eu une soirée hier soir au Cotonou.
J'étais complètement pas, j'étais out. Hein, alors j'ai pas entendu.
À l'hôpital,
bon,
c'est pas
alors ça, c'est le 7 novembre.
Ok.
Qui sera une
ouais.
Date,
très bien, très bien, très bien. Et je vais te dire même ça. Bah oui, bien sûr. Même c'est pas la même sirène quand même. Les gens, voilà. Mais par contre, alors très bien. Je suis très heureux d'entendre ça. C'est très important. Et il y a, comment il s'appelle, Eliyahu Yuswan, je crois que c'est ça son nom. Ah, c'est un mec qui est devenu superstar là maintenant. Il parle sur tous les plateaux. C'est un juif iranien qui parle de partout. Il était pendant 15 ans dans l'unité de Shmoneh Matayim, de 8200, machin. Il a une idéologie extrêmement dure. Pour lui, il dit il fallait, c'était évident. Moi, j'avais prévenu depuis des années... Tout ça. Et il dit, et il faudra absolument que le ministère de l'Éducation fasse du jour du 7 octobre, ou 7 novembre, l'homme chané, un jour dans l'éducation nationale, avec témoignages, photos, et donc, alors évidemment à adapter en fonction des âges, mais comme Yom HaShoah et comme Yom HaZikaron, pour mettre dans la Toda, dans la tête des gens, que tu pourras pas faire la paix avec eux.
Ça rentrera dans la culture.
J'espère beaucoup. Enfin, tout ça pour dire que nous dit ici Dieu, je me dévoile différemment en fonction des circonstances. Ok, il y a plusieurs noms de Dieu et chaque nom, eh ben, il amène un dévoilement différent. Quand il est Elohim, c'est selon la nature. Quand il est Yudke Vavke, c'est le transcendant. Quand il est Shaddai, c'est celui qui promet la descendance. Et ainsi de suite, il y a plein de noms qui montrent des dévoilements différents. Donc il lui dit, voilà ce que tu leur diras. Keye et Shelachani Alechem. Et donc, Vayomer Od Elohim El Moshe. Kotomar El Bene Israël. Une fois que je t'ai dit Eye, maintenant je vais te dire autre chose. Adonai Elohe Avotechem, Elohe Avraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yaakov, Shelachani Alechem. C'est pas seulement je me dévoile différemment en fonction des circonstances, je suis le Dieu d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Je me rattache à une histoire nationale. Je me rattache à une histoire de famille. Badaï. Et donc, qu'est-ce qu'il dit ? Et là, hein ? Veze shmi le'olam, veze zichri le'dordor. J'ai un nom à moi qui est le'olam, perpétuité, mais également ne'elam, nous disent nos sages, qui est caché, qui disparaît. C'est-à-dire qu'on ne le voit pas, on ne le dit pas. C'est quoi ce nom ? Yudke Vavke. Yudke Vavke, le tétragramme, on ne le prononce pas. Même quand il est écrit, on dit Adonai, alors que ce n'est pas ce qui a marqué. On ne prononce pas. Zeshmi le'olam. Veze zichri, la façon dont on se souvient de moi, les d'or dans chaque génération, c'est Alef Dalet Nun Yud Adonai. Eh bien, dans mon passé, dans mes folles années du passé, et heureusement que ce cours n'est pas du tout enregistré, eh bien, lorsque j'avais 17 ans et que j'étais à Georges de la Tour, ah oui. C'était le nom de mon lycée.
C'est le nom du lycée.
À Metz, Ira Kodesh. Il y avait le lycée Georges de la Tour.
C'est le lycée de mes enfants aussi.
Ben voilà, on était à Georges de la Tour.
Il
n'y avait plus d'école juive. Après, en 6e, il n'y avait plus d'école juive.
Georges de la Tour.
Malazote, il n'y avait pas. Donc, c'était le lycée des bobos. C'était le lycée de l'élite. Voilà. Et dans ma classe, j'arrive en terminale. Et j'ai un vrai grand problème. Non, non, ça c'était pas mon problème, ni le mien, ni celui de mes parents. Non, j'ai un vrai problème d'adolescent de 17 ans. Celui qui est mon meilleur ami, qui est à côté de moi en classe, Simon, a une copine. Et c'est un grand problème parce que moi, j'ai pas de copine. Ce qui veut dire que, bah, y a plein de temps que je vais devoir gérer seul parce que lui, il sera avec sa copine. Et donc, je me mets en chasse.
Voilà.
C'est enregistré, ne t'inquiète pas. C'est sur le monde entier. Je me mets en chasse et je me lie d'amitié avec une jeune fille de ma classe. Et ce qui va nous rapprocher, t'as vu, je te dis, tu vas comprendre pourquoi je te raconte l'histoire. Et on va se rapprocher parce que, ben moi, je suis juif, tout le monde le sait. Tout le monde le sait parce que. Neveu du grand rabbin Bruno Fison.
Il était déjà grand rabbin.
Ouais, il était déjà grand rabbin, mais il était surtout celui qui venait donner les cours de religion à Georges de la Tour.
Ah, il était déjà grand.
Puisque Concordat, puisque l'Alsace-Moselle. Donc voilà, donc difficilement caché. En tout cas, donc je suis juif. Et il y a une des filles, donc, de la classe, qui va se rapprocher de moi parce que, vu que moi je suis juif, je peux pas être vraiment comme tout le monde, ben elle me dit, ben tu sais, moi non plus, je peux pas vraiment être comme tout le monde. Et donc, on va se lier d'amitié, on va même aller jusqu'à sortir ensemble, en tout bien tout honneur, bien évidemment.
Elle était catholique ?
Eh ben non, parce que ça, c'était un peu comme tout le monde, mais elle était témoin de Yudke Vavke.
Ah, elle mangeait cachère.
Alors non, elle mange pas cachère.
Il
mange pas de porc, il mange pas de
trucs. Et ma mère lui a dit, bon, nourris logé. Elle a dit, non, je mange pas. Alors... Elle mange pas de viande. Mais comment, pourquoi ? Alors elle dit, parce que moi j'achète ma veine sur le Rodier, qui est là. Et ma mère a dit, moi aussi j'achète.
Donc voilà. Et ben voilà. Et ben justement. Alors, ça nous a rapprochés, mais moi, ça m'a intrigué. Je connaissais pas. Enfin, j'avais entendu parler, mais je connaissais pas. Et donc, à aucun moment, j'ai eu une idée d'aller les rejoindre, mais j'étais vraiment curieux. Et donc, je lui ai demandé, est-ce que je peux venir à une de vos réunions ? Alors, pour elle, c'était le Graal.
Bah oui, parce que c'est leur truc.
Parce que non seulement les témoins, ils veulent convertir, mais alors réussir à convertir un juif, alors là, c'était le Graal. Elle m'a dit, quand elle m'a amené là-bas, elle m'a dit, écoute-moi bien, on s'apprécie beaucoup, machin, mais écoute-moi bien, si jamais tu décides de nous rejoindre, ah, je me marie avec toi dans la minute. Je lui ai dit, bah alors écoute, je pense que je ne vous rejoindrai pas. Mais, alors c'est très intéressant, et l'un des trucs que je leur ai dit, parce que je n'étais pas du tout religieux, je ne savais pas, mais j'entendais des fois des choses, que ce soit de mon oncle ou de Rav Van Berger, ça faisait pas, ça résonnait pas du tout en moi comme étant quelque chose d'important, mais des fois, je ne sais pas, tu sais, des fois tu as un truc que tu as entendu, hein, et tu le ressors. Ça, et ben ça, que Zeshmi le Olam, que c'est Yudke Vavke, mais qu'on ne prononce pas Zene Elam parce que c'est trop haut pour nous, mais Zezichri le Dordor, c'est Alef Dalet Nunio d'Adonai, et ben je leur ai dit, à elle et à son père qui était le chef de la congrégation, je leur ai dit, vous savez, vous appelez les témoins de Yudke Vavke, je dis, mais ça c'est un vrai problème parce que c'est se mettre quand même, se la péter quand même beaucoup de pouvoir prétendre au nom du tétragramme, puisque nous disons Alef Dalet Nunioud. Et à partir de ce moment-là, il a dit à sa fille, devant moi, il a dit, c'est peine perdue, celui-là, il restera juif. Et le lendemain, elle m'a dit qu'il fallait qu'on arrête de se voir.
Voilà, papa, il a tout permis.
Écoute.
Ils étaient sérieux, ces gens-là.
Ils étaient très sérieux. Très sérieux. En tout cas, quoi qu'il en soit, Zezichri, les dor, l'ech, va safta et zikne Israël. Et alors quoi ? Tu vas rassembler les anciens d'Israël, ve, amarta alehem, Hashem Elohe avotechem, nira elai, Elohe Abraham, Yitzhak ve Yaakov, les morts. Je vais rassembler tout le monde et je vais leur dire quoi ? Pakod, pakadeti etrem. C'est le code. C'est le code. Ça y est, ils ont le code. Parce que Yosef avait dit Pakod, ifkod, Elohim etrem. Donc dès qu'on entend Pakod, ifkod, c'est bon, on a le code. Donc il dit Pakod, pakadeti alechem. Ok, très bien. Et une fois qu'on a dit ça, Vet et asui lachem bemitzraim. C'est terminé l'exil. ואומר, אעלה אתכם מעוני מצרים אל ארץ הכנעני והחיתי והאמורי והפריזי והחיבי והיבוסי אל ארץ זבת חלב ודבש. Donc, quel est le programme? Qu'est-ce que Moshe doit dire aux bnei Israël? Quand il arrive, il dit, voilà, c'est Dieu qui m'envoie, la preuve, je connais le code. Et voilà le programme, qu'est-ce qu'on fait? On sort d'Égypte, pour quoi faire?
La guerre.
Pour aller en Eretz Israël. Voilà le programme. Le programme est simple. Qu'est-ce qu'on n'a pas prévu au programme ? Non, comment on arrive ? On va à pied, c'est pas loin. Hein.
Oui, mais
ça, c'était pas prévu, certes. Mais un autre truc qui n'est pas prévu. Alors, on ne sait pas que les. Tout à fait. Mais il y a un autre truc qui n'est pas prévu au programme. C'est un petit passage qui s'appelle Toiré.
Ah.
C'est pas prévu. À aucun moment, Moshe va dire au Bnei Israël qu'on est censé recevoir la Torah. À aucun moment. Et mieux que ça. À aucun moment, lorsque Dieu a parlé à Abraham, Yitzhak et Yaakov, il ne leur a dit qu'il allait leur donner la Torah. Jamais de la vie. Mais ça, jamais on nous a dit qu'on allait nous donner des mitzvot. C'est-à-dire que cette fois, Dieu a fait l'alliance avec Abraham, Yitzhak et Yaakov. À chaque fois, c'est pour leur dire Eretz Israël et la descendance. Zéro fois, Toiré. Pas de Torah, c'est pas prévu.
Si leur avait dit on va donner la Torah.
Ah, on aurait dit non.
C'est quoi ? Ils n'auraient pas su.
Non, on aurait dit c'est
ils
combien ?
Ils n'auraient pas pu dire ce que ça représente.
Dieu aurait pu dire je vous donne une loi qui est la mienne, vous verrez plus tard.
Ah.
Je sais pas. Non, mais là, on n'a pas. Bekadol l'aurait pu. Là, les juifs, ils auraient dit c'est combien ? Ils auraient dit c'est gratuit, mettez-moi en deux. C'est pour ça qu'on a eu deux tables de la loi. C'est pour ça. Ça vient. Maintenant, on ne sait pas. À aucun moment, il nous a parlé de Torah. C'est ce qui va amener que lorsque dans la paracha d'Yitro, il va nous dire, ça y est, je vous donne la Torah, le Bnei Israël dit, d'où ça vient cette histoire ? Moi, ce n'était pas prévu au programme. Ça vient ? Donc là, le programme, il est simple. Retour en Israël. Quand tu entends dans des écoles juives, ou même dans des synagogues, ou dans des cours en Israël, qu'on est sorti d'Égypte pour recevoir la Torah, Zé, Shtu, Yot. On est sorti d'Égypte pour retourner en Israël. C'est tout. Donc les gens qui te disent tu peux pas faire l'aliyah si ce n'est pas pour t'élever spirituellement. Il faut mieux rester à Paris, si tu as la Torah, plutôt que d'aller à Tel Aviv, parce qu'à Tel Aviv, on baisse spirituellement. Ça, c'est des gens qui n'ont rien compris à la Torah. Oui, mais on sait qu'il y en a plein. Mais c'est vraiment dommage. OK ? Donc le programme est donné, il est clair, tout va bien. Et donc, on peut y aller. « Veshamu le kolecha, uvata ata vezikne Israël el melech mitzrayim, v'amartem elav, Adonai Elohe ha'ivriim nikra elenu, ואתה נלחנה דרך שלושת ימים במדבר, ונזבחה להשם אלוהינו. Donc, fort de cette nouvelle, vous devez aller, toi et les dirigeants du peuple juif, chez Pharaon, et lui dire, Dieu nous a donné la permission de partir. C'est où ?
Mais qui c'est Dieu ?
Dieu ? Et là, il dit, Elohe, non, non, c'est une très bonne question. Elohe à Ivrim, le Dieu des Hébreux. Eh oui, parce que tous les peuples, ils ont leur dieu à l'époque. Alors ça, il le dira. Naron, et alors il dit le dieu des Hébreux. C'est ce qu'il va dire exactement. C'est exactement les mots qu'il va utiliser, mais pas dans le sens péjoratif. Dans le sens, mais je le connais pas celui-là. Il y a un panthéon qui est tellement grand, je le connais pas. Alors c'est pour ça qu'on dit le dieu des Hébreux. Et ça, il le connaît parce qu'il voit bien les Hébreux chez lui depuis 200 ans. Il prie un dieu. Donc, je ne le connais peut-être pas perso, mais Dieu des Hébreux, ça parle. Ok ? Ve'ani yadati ki lo yiten etchem melech mitzrayim la'aloch ve'lo beyad chazaka. Il dit, je sais qu'il ne va pas te laisser partir. C'est-à-dire, je ne suis pas, dit Dieu à Moshe, je ne suis pas dupe. Bien sûr qu'il ne va pas te laisser partir. Veshalachti et yadi veiketi et mitzraim bechol nifleotai, asher sebe kirbo. Vacherechen yishalach etchem. Donc je vais lui tirer les bretelles et après il vous laissera partir. Ah, le programme est donc clair. C'est bon. Venatati et chen a amaze beine mitzraim. Veaya kitelechun lotelchun rekam. Quand vous allez sortir d'Égypte, vous allez voir que il y aura beaucoup de chen, comment on va traduire ? Chen, c'est ouais la grâce, mais c'est un peu de non dans le sens bon allez je te donne allez yalla tu mérites bon allez un peu de pitié comme ça, c'est-à-dire que on va sortir avec plein d'argent. On va finalement réussir à sortir avec Rechouch Gadol. Pourquoi ? Parce que, à la fin de l'histoire, on nous dit qu'effectivement, Chenam beine Mitzrayim, vaidnu kesef usmalot vezav. Donc finalement, c'est toujours pareil, dès qu'on sort d'exil, à force de persécution, finalement, les goyim disent, bon, on a peut-être exagéré un peu, allez, prenez un pays. Ah, tu crois que s'il y avait eu le vote des Nations Unies en 1940, en même temps, non pas 40, en 38 ou en 37. Je te rappelle qu'en 1927, 10 ans après la déclaration Balfour, il y a la commission Peel. Ils ne sont pas aussi sympas que le truc. Hein. Donc, effectivement, évidemment que la Shoah a été un catalyseur pour que les nations disent bon, bah, yalla, prenez. Mais évidemment, non mais attention, évidemment qu'on sait tous que l'État d'Israël n'est pas le résultat de la Shoah. La mise en place du chantier de l'identité sioniste, non, c'était bien avant. Mais c'est sûr que ça a accéléré le processus. Il n'y a pas débat là-dessus.
Ça a aidé.
Bah, c'est sûr. On n'a pas le choix.
Je ne sais pas s'il a accéléré.
Alors, comment tu appelles ça ?
Non, je crois que ça a aidé le processus.
D'accord, blanc bonnet blanc. Ouais. Ça a aidé. Ça veut dire quoi, ça a aidé ? Ça veut dire que s'il n'y avait pas eu, ça aurait été plus compliqué ?
Non, s'il n'y avait pas eu, il n'y aurait pas eu.
Ah non, ah non, ah non, ah là je m'inscris en faux madame.
Il n'aurait pas eu à ce moment-là.
Ah, qu'est-ce que je viens de dire alors ? J'ai dit ça a été plus rapide.
Dit comme ça.
Oui. Ah non, tu vois, t'essayes de ne pas être d'accord avec moi, mais en fait ça ne marche pas. J'ai appris que les écoles de France viennent d'annuler maintenant leur voyage en Pologne. Là.
Tiens.
Ben, je devais partir la fin novembre. Les écoles juives. L'école de Yavne décide de ne pas partir. D'Afka en Pologne, pour l'instant, il ne se passe rien. Non, mais je sais, mais elle n'est pas en Pologne, elle est en France. Non, mais d'accord, mais Yael, il y a la frénésie que elle est shlicha de l'agent juif. Donc c'est autre chose. D'accord, mais moi je ne te parle pas des shlichim de l'agent juif. Non, mais je sais bien. J'entends, mais j'entends bien, bien sûr, tu as raison. Mais là, on parle de faire un voyage, une sortie scolaire à l'extérieur, mais pas pour aller en Israël. Je ne parle pas aller en Pologne.
Aller voir
Auschwitz, comme ça. Oui, pas en classe de neige. Hein. Mais bon, qu'est-ce que je te dis ? Donc, quoi qu'il en soit. Non, non, Yavne, c'était le seul qui partait là en novembre. Après, les autres, c'est en janvier, février, machin. Donc, on verra ce qui va se passer. Écoute, le bac bleu-blanc aussi, il est annulé pour l'instant.
Il
n'y a pas d'avion. C'est en décembre.
Parce qu'il y a eu quand même. Non, il y a eu que ce groupe.
Ils ne sont pas assurés, puis non, mais de toute façon, les parents, jamais ils vont envoyer leurs enfants en Israël. Et au-delà de ça. Oui, mais d'abord, ce n'est pas des mineurs. Non, non, ce n'est pas des mineurs. Ben, parce que le Rafling, il a appelé les parents un par un.
Moi, je suis étonné.
Un par un.
Pourquoi tu es étonné de.
Que les...
Il y a quand même 25 filles.
Mais tu n'as pas vu le petit groupe de Gourariers là, qui est arrivé avant-hier. C'est pas 25 hein, qu'ils étaient.
Ils sont 30. 40. Ils sont 30. Ah, ils 15 sont filles et 15 garçons, je crois.
Je pensais que c'était plus.
Ils étaient 40 et il y avait du monde dans l'avion.
Mais c'est oui, bien sûr.
Il y a une ambiance dans cet aéroport.
Mais bien sûr.
Elle reste toute l'année.
Et moi, je les vois deux fois par semaine, donc je te dis.
C'est même pas ce qu'ils sont aussi au lieu.
Hein? Alors, elle en parlait? Bah, évidemment. Mais quand Félicia, elle parle. Mais quand est-ce qu'elle a été avec elle? Avant-hier.
Elle a parlé où, Félicia?
Ben voilà. Ben voilà, Félicia, c'est une valeur sûre. Eh, quand Félicia, elle parle, c'est fini. C'est fini. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ?
Shlomo, pareil, il y en a deux comme ça.
Non, Shlomo, il ne fait pas pleurer tout le monde tout le temps.
Parce qu'il fait pleurer, là.
Félicia, elle fait pleurer.
Parce qu'il pleure avec.
Oui, mais ce n'est pas juste. Parce que moi, je sais, il a une pince à épiler dans sa poche. Et il se tire les poils. Comme ça, il pleure au moment où il veut pleurer. Moi, je sais déjà, à chaque fois que je l'accompagne, je sais à quel moment il va commencer la larme. Je le sais.
Mais ça fait, Shlomo.
Shlomo Balzan. Shlita. Bekitsour. Revenons à nos moutons. Donc, le programme est donc clair. Veshala isha mishrenta u migarat beita kle kesef u kle zahav u smalot u samtem al benechem ve al benotechem ve nitzaltem et mitzrayim. Au final, vous sortirez avec plein d'argent dans les fouilles parce que vous méritez. Finalement, ils vous ont quand même esclavagé pendant pas mal de temps. Donc,
ils vont recevoir un salaire.
Mais ils vont prendre, ils vont servir. Ben, évidemment, on va prendre. Voilà, il y avait eu à un moment donné.
Ouais, les Juifs sont les voleurs.
Évidemment, c'est bien connu. C'est bien connu. Je crois qu'il y a un moment donné, il y a un porte-parole de l'ONU, enfin pas de l'ONU, un responsable de... Ah, j'ai dit n'importe quoi. Le représentant égyptien à l'ONU, voilà, c'était il y a longtemps déjà, qui avait dit, qui demande réparation à Israël. Qu'il faut que Israël paye des dommages et intérêts sur, je sais plus sur quoi il disait. Et l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, il a répondu, il a dit, bah, écoutez, on peut peut-être y envisager, mais d'abord, il faut que vous nous remboursiez les 400 ans d'esclavage. Oh. Bon, il n'y a pas eu 400 ans d'esclavage, mais.
Il s'est calmé, non.
Ouais. Vayan Moshe. Vayomer. Donc, très bien, j'ai entendu le programme. Réponse de Moshe. והן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי כי יאמרו לא נראה אליך השם נכון pourquoi il pense qu'il a le code, il a tout ce qu'il faut, ça va le faire. Et Moshe il dit non, jamais ils vont me croire, jamais ils vont me croire, ils diront Dieu ne s'est pas dévoilé à toi, c'est pas possible. Et le natif de Volozhin il dit pourquoi, il dit parce que tous les juifs ils attendent le libérateur, ils attendent le Moshiach. Mais ils l'attendent en frac, avec une grande barbe blanche, un chapeau, et il parle yiddish, et il connaît la toire, il a des grandes payes. C'est ça le Mashiach, enfin. Imagine-toi, il va arriver demain, là. Mais imagine-toi à la place du Mashiach, t'as un mec qui arrive avec une grande barbe, certes, mais pas de kippa, qui parle allemand, qui est habillé en costume, et qui dit, si vous le voulez, ce ne sera pas un rêve. Mais ils vont dire, mais ça va pas ou quoi? C'est pas le Mashiach, ça. C'est pas possible. Moshe, il dit, le natif de Vologine, il dit, Moshe, il pense que ils vont le voir arriver habillé comme un Égyptien, avec un accent égyptien. Il va parler yiddish avec un accent à couper au couteau. Et il va leur dire, Shalom, Ani, Amashiach, Ani Bati, Lotietrem, Mi, Agelut, Azeboidi. Ils vont dire, ils vont jamais me croire. Et là, nous dit la Torah que Dieu va lui donner des signes. Nachon, c'est quoi les signes? Regardez, Vayomer el Hashem, Maze Beyadecha, Vayomer Mate, Vayomer Ashlicheu Arza, Vayashlichu Arza, Vayil et Nachash. Donc, le fameux histoire du bâton qui se transforme en nachash, j'y reviendrai dans deux secondes. Donc, finalement, il l'attrape par la queue et ça redevient un bâton. J'en parle pas tout de suite, je reviendrai. Ça, c'est le signe pour calmer tout le monde. Deuxième signe, mets ta main dans ta veste. Ok. Vayave yado becheko, vayotsia veine yado metzorat kashaleg. Il sort sa main qui est couverte de lèpre. Toute blanche de lèpre. Ok, c'est moins cool. Quand est-ce qu'on a la lèpre, d'après la Torah? Une des grandes raisons pour laquelle on a la lèpre, c'est la Shonara. Nous dit le natif de Vologine, parce que Moshe a fait du Lashonara sur le peuple juif. Elle dit, tu n'as pas le droit de dire que les Juifs, ils accepteront pas la Géoula parce que ça ressemble pas à ce qu'ils pensaient que ça devait ressembler. Quand Herzl, il vient, tu vas voir que les Juifs, ils vont accepter Herzl. Et c'est ceux qui acceptent pas, c'est des minoritaires. Mais Am Israël, il va accepter la Géoula quand elle arrive, il va savoir reconnaître que c'est ça la Géoula. Parce que toi, tu penses que parce que tu ressembles à un Égyptien ou parce que tu n'as pas grandi avec eux dans le Bessam Midrash, alors ils vont pas t'accepter, Zel Hashanara. Donc, Metzorat Kachalek. C'est vrai. Quand Herzl est arrivé, est-ce que Am Israël a accepté? Bah oui. Dans sa grande majorité. Il y a des gens qui n'ont pas accepté. Mais dans sa grande majorité, le peuple juif, il a soutenu.
Non, ils ne croyaient pas. C'est pas qu'ils n'ont pas.
Non, non. Il y a des gens qui croyaient.
On n'en veut pas.
Ah bah si, il y a des gens qui ont dit qu'on n'en veut pas. Ou ils vont voyer. Ou ils vont vouiller. Tu veux que je te raconte ce qu'a dit le rabbi de Sotmer? C'est ce qu'a dit le rabbi de Lubavitch de l'époque? Mais.
Là, je fais du lâchement.
Mais non, mais écoute. Il y a eu des rabounim qui se sont opposés.
L'Allemagne,
en Hongrie particulièrement.
Et qu'il y en a qui
s'imposent
aujourd'hui.
Et pareil. Toi d'abord, mais il y en a moins.
Ça commence à changer.
Ça, il y en a moins. Il y a amer quand même, on dira quand même l'Isrout à Tsfaradim, qu'il n'y a eu aucun rabbin séfarade qui s'est opposé à Herzl. Zéro.
C'est le meilleur.
Gournisht mit gournisht. Il n'y a que dans le monde ashkenaz que ça s'est opposé.
Et pourquoi?
Ah pourquoi? Parce que chez les Sfaradim, on n'a jamais arrêté d'étudier le Tanakh. Donc on sait ce que c'est la Géoula. Et dans le monde séfarade, on n'a jamais arrêté d'étudier la Kabbalah. Et donc les secrets de la Kabbalah, ils parlent très bien du libérateur qui n'est pas religieux. Et une autre raison, c'est que le monde séfarade, il a beaucoup moins souffert de l'assimilation. De l'émancipation et de l'assimilation. Alors, on ne pouvait pas, mais enfin, dans le monde du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, de la fin du 19e siècle, c'est la France déjà. Non, mais c'est la France. C'est déjà la France. Donc, il y a quand même, oui, une ouverture beaucoup plus grande à l'Europe, mais il n'y avait quand même pas autant d'émancipation comme il y a eu en Europe. Et donc, quand tu voyais un juif qui parle au nom du peuple juif et de machin, qui habille à l'européenne, ça ne dérange pas trop le juif séfarade. Alors que le juif ashkénaze, il a un ressentiment par rapport à ce qu'il vit au quotidien. C'est-à-dire, je ne dis pas qu'il n'y a pas de circonstances atténuantes, mais le fait est que chez les rabbinim séfarades, personne ne s'est opposé au sionisme laïque. C'est-à-dire, c'est comme ça. Donc, très bien, donc on est bon. Juste, pourquoi est-ce que le signe qui doit calmer tout le monde, qui doit faire en sorte qu'on puisse commencer à parler, c'est le coup du bâton qui se transforme en serpent, chose que n'importe quel Égyptien en deuxième année de Khartoumaout, de Harry Potter, sait faire. Pourquoi c'est ça le truc? Et bien ça, c'est ce qu'on verra la semaine prochaine. Chazak v'ruch.
Merci.